Actu SF, les podcasts.
Bonjour et bienvenue à la table ronde sur Solaris, une revue québécoise et canadienne et francophone, tout cela. Avec deux invités sur trois, nous aurons une troisième personne dans une quinzaine de minutes. Personne très importante qui aura beaucoup à dire. Nous essaierons de l'empêcher de trop en dire. Alors, on va commencer par présenter les personnes qui sont ici. Je vais m'occuper de dire en quoi elles sont reliées à Solaris et elles pourront ajouter quelques mots si elles le désirent sur leur lien particulier à Solaris. Donc Sylvie Bérard a été pour Solaris critique à l'occasion, je pense, et certainement une écrivaine, une autrice qui a contribué de nombreuses nouvelles. Est-ce que tu veux aussi nous en dire un peu plus sur toi?
Non, ben c'est tout à fait juste. C'est ça, je suis de l'extérieur, toujours un petit peu collaboratrice à Solaris, lectrice aussi, ce qui est quand même important.
Yves a également signé de nombreuses nouvelles dans Solaris, pas nécessairement lorsqu'il était directeur littéraire également de Solaris, mais à l'occasion peut-être, vu qu'il y a une direction littéraire collégiale auquel nous ferons peut-être allusion. Et est-ce que tu as fait autre chose pour Solaris et peux-tu nous dire quelque chose de plus sur toi?
J'ai rencontré Solaris assez tôt, mais au début, je la remarquais de façon ponctuelle. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à la lire de façon régulière. Et j'étais éberlué de remporter le prix Solaris en 2000. Oh boy, non, pardon, pas 2000. Longtemps avant, au siècle précédent, en 1988, que j'ai remporté le prix Solaris. Et je ne pensais pas que je deviendrais un jour directeur littéraire de Solaris. Et j'ai sévi pendant 7 ans. Et peut-être qu'un des bons coups de Solaris, ça va avoir été non pas de me mettre à la porte, mais de me laisser partir.
Alors voilà. Moi-même, je suis, comme écrivain, celui qui a signé le plus de fiction dans Solaris. Je suis critique. Je suis aussi... Solaris est une revue qui, à cause de son importance dans le paysage canadien francophone, a examiné sa propre histoire à plusieurs reprises. Moi, je suis celui qui en a fait un peu l'histoire dans mon petit guide de la science-fiction au Québec, disponible à la librairie et que j'irai dédicacer après cette table ronde. Et donc, je me suis penché un peu sur l'histoire de Solaris, en plus donc d'être critique et écrivain. Alors, Yves a anticipé une de mes questions. Alors, je vais en profiter donc pour essayer justement de vous convaincre de l'importance de la revue, de demander à mes participants ici d'identifier un peu ce qu'ils considéraient comme des bons coups de Solaris. Qu'est-ce qui fait de Solaris une revue importante dans l'histoire de la science-fiction mondiale, peut-être? Après tout, c'est quand même une des 5 ou 6 plus anciennes revues de science-fiction au monde encore en activité.
C'est pas la plus ancienne?
Selon Joël, qui avait trouvé à un moment donné des revues assez anciennes en Tchécoslovaquie et ailleurs. Ouais. et bien sûr, il y a Amazing qui finit toujours par renaître de ses cendres.
Oui, si on compte comme ça, mais elle va avoir 45 ans.
Effectivement. Donc, mais les bons coups de Solaris, est-ce que tu as... Et Sylvie?
Ben, je vais commencer en parler en tant qu'auteur. Je pense que, je ne sais pas si c'est un bon coup, parce que c'est plusieurs bons coups, c'est cette direction littéraire. Je dis pas ça juste parce que j'ai un ex-directeur littéraire à côté de moi. Mais Solaris n'est pas une revue qui publie des textes simplement, est une revue qui dirige les textes littéraires aussi. Il y a un travail vraiment, là, qui est fait sur les textes. Et si je peux parler d'un bon coup personnel, à un moment donné, j'avais collaboré un peu à Solaris, puis à un moment donné, la revue m'envoie, ils avaient commandé des des couvertures, des illustrations de couvertures pour toute l'année, sans trop savoir ce que ça allait illustrer. Alors, ils avaient demandé, ils avaient envoyé à différents auteurs les illustrations en disant, bon, si vous avez envie d'écrire une nouvelle, au lieu de faire l'inverse, illustrer la nouvelle, on demande aux gens d'écrire une nouvelle autour de ces textes-là, si c'est possible. Alors, moi, j'ai vu, il y avait 4 illustrations. Il y en avait une avec des ours polaires. Il y en avait une avec des, enfin, puis il y en avait une avec des reptiles. Et puis, je disais, je vais peut-être écrire, j'ai jamais écrit d'histoire de reptiles, quelle drôle d'idée. Alors, je vais peut-être écrire une petite nouvelle de 5 pages sur les reptiles. Alors, c'est ce que j'ai dit, c'est Jean Petitgros qui m'avait envoyé l'illustration à l'époque. Et je dis, bah oui, je vais peut-être écrire une nouvelle de 5 pages. Alors, j'écris, je dis, bah finalement, ça va peut-être être une nouvelle de 20 pages. Alors, je continue à écrire, je dis, bah peut-être ça va être une nouvelle de 40 pages finalement. Alors, j'ai fini par écrire cette nouvelle-là. Et puis, donc, elle a été publiée. Et là, soudain, je me suis prise d'amour pour les reptiles. Alors, j'ai commencé une deuxième nouvelle, encore une fois. Je dis, bon, je vais avoir une petite nouvelle qui s'en vient. Là, je me suis dit, mais j'ai un roman. Je suis en train d'écrire un roman. Donc, à partir de ce petit coup de pouce, ce petit incitatif à écrire de la revue Solaris, ben, j'ai eu un roman. Alors, je trouve que, ben, en tout cas, c'est un bon coup personnel. J'imagine que c'est... Je ne suis pas la seule, probablement, qui a eu aussi ces incitatifs à écrire.
Veux-tu prolonger?
Oui, bien, c'est certain. Moi, j'ai d'abord été un auteur pour Solaris. Au niveau de la direction littéraire, c'était quelque chose... Ça a toujours, pour moi, été une expérience très intéressante, positive. C'est exigeant, mais... C'est une expérience très positive parce qu'on arrive à faire un bien meilleur texte comme ça. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait... Je veux dire que la quantité prime sur la qualité, mais ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que Solaris devient de plus en plus... Il y a de plus en plus de place, la revue... 4 pages de plus, 8 pages de plus qu'il y a 2 ans. Ça lui permet de publier une bonne quantité de textes. Et la relation avec les auteurs outre-Atlantique a toujours été un peu difficile parce qu'ils sont nombreux. Ils auraient voulu publier dans Solaris. Et on dit, mais c'est parce qu'on n'a pas de place. On veut faire une place aux auteurs locaux aussi. Mais là, il y a, à nouveau, on est à une période où il y a de la place pour les auteurs français, belge, européen, et on en voit. Alors, ça devient vraiment une revue qui est cosmopolite. Je ne sais plus le mot. Je me remets mal de mon décalage.
International.
International, oui, c'est ça. Donc, oui, alors, c'est quelque chose qui est positif pour moi.
Yves anticipe enfin un sujet que j'allais aborder parce que justement il y a parfois une inquiétude exprimée en France, en Europe, par rapport à Solaris. La revue est-elle ouverte aux auteurs européens? Bon, on a ici sur place un auteur français que vous pouvez voir au sommaire derrière moi, Pierre Gévard, Œil de plastique. Donc c'est la preuve que la revue est ouverte, mais évidemment... La revue bénéficie de subventions du gouvernement canadien, du gouvernement québécois, selon les années, du soutien d'une maison d'édition installée au Canada et donc donne une certaine priorité aux auteurs canadiens. Au fil des ans, et donc 40, 45 ans bientôt, la revue est passée par plusieurs phases. À ses débuts, elle était parfaitement ouverte aux auteurs de partout. Il y a déjà des anthologies du Conte Bref International dans les premiers numéros de Requiem, comme s'appelait Solaris avant 1979. Et après, pendant plusieurs années, c'était tout à fait ouvert aux Français. Puis, dans les années 90, il y a eu une période de fermeture qui, semble-t-il, a marqué les esprits. Depuis quelques années, la revue est revenue à plus d'ouverture. Et en plus, je vais le mentionner ici et maintenant, le prix Joël Champetier est donc un concours... d'écriture, richement doté, 1 000 euros, je pense, ouvert à tous les auteurs non canadiens, et on pourrait ajouter qui n'habitent pas au Canada, parce que comme citoyen français habitant au Canada, j'ai posé la question, est-ce que je pouvais aussi concourir, mais non, ils ont bien créé les règlements pour m'exclure. Je dois m'en tenir au prix Solaris qui est ouvert aux auteurs canadiens. Bref, le prix Joël Champetier, ce n'est pas nécessairement dans le programme, mais on m'a dit qu'il sera annoncé samedi. Et on ne m'a pas dit à quelle heure, mais surveiller les événements, sans doute du samedi soir.
C'est mentionné dans le programme.
OK, j'ai fait une recherche sur le site Internet.
Pas sur le site, mais sur le programme imprimé.
Bon, oui. Ben, tant mieux. Alors, comme ça, tout le monde est au courant. Le prix Joël Champetier, le lauréat ou la lauréate sera annoncé ce soir?
Samedi.
Samedi soir, oui. Il n'est pas encore samedi. D'autres commentaires sur l'ouverture aux Européens? Yves, tu avais été peut-être en première ligne ou c'était après ton temps?
J'ai été de 1994 à 2001. Si je me rappelle bien, à l'époque, oui, on n'était pas contre, mais il y avait, disons, il semble me souvenir, j'ai reçu des textes européens, mais pas beaucoup à l'époque. Ils n'étaient pas d'un très bon niveau à ce moment-là, mais comme je vous dis, il y en aurait eu vraiment peu à l'époque. Et puis, c'est ça. Pour nous, ça a toujours été. On avait envie de râler, de dire bien, les revues françaises, elles ne publient pas beaucoup de français. C'est un peu curieux. Mais c'est ça. Je suis content, moi, qu'il y ait assez de place pour toute la francophonie. C'est pas qu'on veut refuser les gens. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi le. Charité ordonnée commence par soi-même. La communauté de science-fiction canadienne d'expression française, pas seulement québécoise, eh bien, on veut la développer, la cultiver. C'est important. Je pense que Solaris a été un des outils importants pour la création d'une communauté et qui se maintient, qui est en santé. C'est pas rien.
Est-ce qu'il n'y avait pas une pression aussi dans les années 90 des organismes qui subventionnaient de donner une plus grande
oui,
place aussi
c'est vrai.
Aux auteurs? Ça venait pas juste des revues.
C'est ça. Au niveau des organismes subventionnaires, des fois, ils pouvaient faire des remarques qui étaient parfois un peu absurdes. Quand c'était pour justifier que oui, on vous donne pas une grosse subvention, puis bon, on sent qu'il cachait quelque chose derrière, que simplement une baisse de subvention accordée à tout le monde. Mais oui, il y a des fois, il insistait beaucoup, oui, parce qu'on veut, c'est pour la littérature d'ici qu'on veut promouvoir. Alors, il y avait ça aussi, c'est vrai.
Sylvie et Yves, bon, on a presque répondu à la question, mais peut-être qu'on peut l'approfondir un peu. La question, justement, du rôle, de l'importance de Solaris pour la science-fiction québécoise. Donc, on a parlé de son rôle de formation de talent via la direction littéraire. Sylvie, tu faisais un peu allusion donc à son rôle de construction. Est-ce que tu peux amplifier un peu?
Oui, bien, je pense que tous les agents dans Solaris sont aussi très impliqués dans la science-fiction. Alors, c'est un milieu de vie. c'est une commune de la science-fiction. C'est vraiment des gens qui sont impliqués dans l'écriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Solaris qui porte un seul chapeau?
Pas évident.
Alors, les gens qui sont dans Solaris sont aussi des gens qui ont fait de la critique littéraire, qui feront ou ont fait de la direction littéraire, qui écrivent. Alors, ça donne aussi un contact complet aussi avec ce qu'est la publication de science-fiction. Et on parlera peut-être, je ne vais pas anticiper sur tes questions, mais on pourrait parler aussi de la critique littéraire. Qui se fait dans Solaris, parce qu'il n'y a pas que de la création, mais il y a aussi la recension aussi de livres qui est importante. Mais je veux participer sur la magnifique question de Jean-Louis, qui doit en avoir une là-dessus aussi.
Sur la critique, je n'allais pas nécessairement trop aborder le sujet, mais...
Bon, je vais continuer, alors.
Oui,
moi, ce que je trouve important, c'est dans Solaris, pour ma part, en fait, c'est mon accès, bien souvent... à l'actualité littéraire aussi. Bon, vous savez, je ne sais pas c'est comme en France, mais je me doute bien que c'est un peu comme chez nous. La science-fiction, le fantastique aussi, ne sont pas beaucoup critiqués dans les périodiques réguliers, dans les journaux. Alors, pour moi, Solaris, c'est ma façon de me tenir au courant aussi, parce que, bon, aussi, bon, tout à l'heure, on mentionnait auteur canadien, français. Quand on n'est pas en milieu complètement francophone aussi au Canada, on n'a pas accès, on a accès encore moins. Bien, sur Internet, c'est différent, mais Solaris me donne quand même accès à l'actualité littéraire, ce que je trouve très important aussi comme rôle.
On parlait tout à l'heure de l'âge de la revue et ça soulève un peu la question. Comment, enfin même deux questions, je vais peut-être commencer par la première. Non, la première, je vais la garder pour Elisabeth parce qu'elle était là. Elle est associée à Requiem et Solaris depuis les années 70. Donc je te poserai tout à l'heure la question de comment est-ce qu'un fanzine, parce qu'au début, on avait ce qui était un fanzine, devient une revue. Donc, vous aurez la réponse dans 5 minutes. Mais comment est-ce qu'une revue fait pour survivre aussi longtemps? Est-ce qu'il y a, quel est votre point de vue de l'extérieur peut-être ou de l'intérieur?
Bien, il s'agit de trouver des gens pour prendre le relais de ceux qui sont brûlés, épuisés, découragés, trop vieux. Sérieusement, c'est nécessaire. Tu ne peux pas avoir la même équipe qui dure pendant 45 ans. Tu peux t'en aller et revenir. Pardon. Tu peux trouver d'autres énergies, mais il faut trouver d'autres mondes. Puis parfois, c'est ça. Ça pouvait être difficile de voir qui pouvait être coordonnateur, comment est-ce qu'on peut s'arranger. La revue perdure, ça va, mais c'est ça. Il y a toujours... C'est un apostolat à certains points de vue. On est payé, mais on est très, très peu payé. Pendant très longtemps, Solaris était entièrement bénévole. Et puis, on est les organismes subventionnaires. On dit non, vous devez absolument payer vos contributeurs. Alors, quand j'étais directeur littéraire, j'étais payé, si je me rappelle bien, 200 $ par année. Alors, en 4 chèques de 50. C'est bon, vous comprenez qu'on ne fait pas ça pour l'argent.
Peut-être aussi en s'adaptant, en se transformant, Solaris a changé de nom déjà, ensuite a changé de format, a changé un petit peu de contenu en changeant de format aussi, a laissé tomber certains éléments de contenu. Tu parlais tout à l'heure aussi que c'est une revue qui a beaucoup souligné ses jalons historiques. Il y a eu beaucoup de plusieurs numéros anniversaires. Et les numéros anniversaires aussi servent d'anthologie de la science-fiction québécoise aussi, ou du fantastique. Donc, je pense en étant constamment... C'est du travail, hein, c'est du boulot, surtout pour 200 $ par année. C'est du boulot de se garder constamment présent, constamment actif aussi. Mais je pense que c'est comme ça que Solaris a survécu en se réinventant, disons, sans trop changer sa base en même temps.
Ben, d'une part, on s'est entendu pour dire que Solaris fait travailler les auteurs. Je me souviens effectivement moi-même de ma première collaboration pour Solaris en 86 à peu près. J'avais participé au prix Solaris. Et entre Elisabeth, qui était directrice littéraire à l'époque, et moi, il y a eu, je pense, 7 versions de ma nouvelle qui ont circulé à l'époque où on ne travaillait pas sur ordinateur, je vous le rappelle. Et donc, la nouvelle qui est finalement parue donc, avait été amplement retravaillée. Comment voyez-vous l'ouverture de Solaris aux nouvelles plumes?
Ben, en fait, je crois qu'il y a toujours eu... assez régulièrement quand même des nouvelles voix qui apparaissaient dans Solaris. Au début, évidemment, c'était inévitable parce que à peu près tout le monde débutait. À un moment donné, ça s'est tassé. Il y avait à un moment donné, comme le but a toujours été de garder le niveau de la revue de plus en plus haut, il y a eu une époque où Solaris n'était plus considéré comme un banc d'essai pour débutants, comme il disait, mais il y avait à l'époque quand même déjà plusieurs revues amateurs fanzines où c'était davantage possible. C'est un choix déchirant aussi parce que si on se ferme aux nouveaux auteurs, ça décourage les gens. Mais se fermer, pas dans le sens de refuser de les publier parce qu'ils sont nouveaux, mais d'exiger d'eux une qualité minimale. Et ça, c'est un problème. C'est un dilemme parce que si on se dit oh « oui, je vais le publier pour l'encourager », mais c'est OK, cette personne-là va toujours faire la même chose. Est-ce qu'on peut lui demander plus la prochaine fois? Donc, il y a ça. Je sais que à l'époque où j'étais directeur littéraire, j'avais mis la barre haute. Je me dis en rétrospective, j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus basse. Je ne suis pas certain. Mais ça a toujours été pour moi difficile de dire oh oui, ben je vais prendre ça parce que il y a Éric Gauthier, j'ai refusé son premier texte qu'il avait envoyé à Solaris, mais en lui disant écoute, c'est bien, mais lui, il m'en a envoyé un deuxième, et à partir de ce moment-là, c'était, ben, c'est parfait. Et ça a été un auteur qui a fait ses débuts dans Solaris et qui a eu une très bonne carrière par après. Alors, j'étais très content de l'avoir publié. Il y a quelques auteurs aussi nouveaux que j'ai publiés à cette époque-là, mais peut-être moins, parce que pour moi, à cette époque, l'important, c'était de vraiment garder le niveau de fiction, parce que je ne suis pas intéressé à lire une revue qui présente des gens qui font des histoires maladroites. Je veux quelque chose qui soit professionnel et je pense qu'on peut le demander. On le fait aux États-Unis très bien depuis des années, des décennies. Je pense qu'on peut le faire aussi dans les pages de Solaris.
Ben, il y a constamment de nouveaux auteurs. Il y a le concours aussi qui parfois réserve des surprises. Bon, il y a eu parfois aussi des auteurs consacrés qui ont remporté le concours, mais moi, j'ai eu une année où je n'ai pas remporté le concours, mais j'étais en deuxième place, je pense. Et bon, on m'a aidé à retravailler le texte aussi. Donc, c'est pas parce que notre vie n'est pas finie parce qu'on n'a pas remporté le concours, parce que souvent, il y a une liste de réserves de nouvelles aussi, qui sont parfois des nouvelles plumes aussi. Donc, il y a quand même des manières d'entrer aussi à Solaris, même si on n'a pas si le nom n'est pas connu, là, ou si on n'est pas un auteur d'expérience.
Ces dernières années, par exemple, il y a le concours d'écriture sur place au Congrès boréal, et ça, les gagnants, normalement, sur la catégorie auteur établi puis nouvel auteur,
il y a les deux volets aussi,
oui,
maintenant.
Vont se retrouver publiés dans Solaris. Et là, bien, on est comme si c'est une nouvelle qui est écrite en une heure, mais qui va avoir un retravail un peu après, mais c'est un excellent moyen pour une nouvelle
page. Ce n'est pas des nouvelles d'une page, c'est des nouvelles écrites en une heure. Il y en a qui écrivent beaucoup plus qu'une page.
Est-ce que j'ai dit une page? Oui,
je voulais dire une heure,
en une heure, oui.
Donc, c'est un encouragement pour ceux qui, dans la salle, qui pourraient vouloir participer au concours du prix Joël Champetier. Non seulement il y a une bourse de 1000 euros, je crois, à gagner, mais les autres, même si on ne gagne pas, comme ils disent, son texte peut être considéré par la direction littéraire de Solaris pour une parution. Même chose pour ceux qui participent au prix Solaris. Et donc, ça, c'est une des façons dont la revue Solaris s'enrichit de nouvelles plumes au fil des ans. Alors, Elisabeth Van Arbourg vient d'arriver. Mm-hmm. T'as manqué les grandes polémiques, mais on en a quand même gardé quelques-unes. Alors, Elisabeth, je pense que plusieurs personnes sans doute la connaissent déjà, mais pour la revue, elle a été non seulement une contributrice comme écrivaine, mais aussi une critique, une rédactrice en chef, une directrice littéraire. Et je me souviens, elle va nous dire ensuite si c'est à elle qu'on doit le nom de la revue Solaris. Requiem, c'était Norbert Spener en 1974, qui fonde un fanzine avec ses étudiants collège de Longueuil.
Ça s'appelait Requiem, parce que très démocratiquement, Norbert avait laissé ses étudiants choisir le nom. Et alors, c'était le bordel total. Et finalement, il a décidé que ça s'appellerait Requiem.
Non, en fait, c'était... Selon la légende...
Non, j'avais la légende fausse. Il a pris le nom proposé. Il a pris par lui-même le nom... choisie par une de ses étudiantes.
Apparemment la seule étudiante du groupe.
La seule étudiante du groupe, ouais, Norbert, c'est bien. Et après Solaris, il a choisi le nom lui-même. Et le gag, c'était pourquoi Solaris ? Parce que je l'aime.
Oh oui.
Quelqu'un comprend le jeu, là ?
Quelqu'un connaît Norbert Spener ?
Oui, c'est le grand gougou lubrique. Norbert adore faire des mauvais jeux de mots, plus ils sont mauvais, plus ils sont bons, comme vous savez. Et bien sûr, Solaris, c'est le roman de Stanislas Lem, que tout le monde devrait avoir lu ici, si vous ne l'avez pas lu, vilain. Mais vous avez au moins vu le film. Les films. Celui de Tarkovsky, qui est bien meilleur. Et l'autre, avec Tonton Clooney, que vous avez sûrement vu. Vous avez vu ce film, Hocher la tête de haut en bas, non? Pas vu le film. Ah, bah, coudonc.
Ça fait déjà quelques années. Oui, une revue appelée Requiem.
Mais c'est surtout qu'il s'est rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup de science-fiction qui arrivait dans, dans cette revue. Et donc, il trouvait qu'un nom science-fiction serait plus approprié.
Bah, d'ailleurs, ça a soulevé pendant quelques années la question de savoir si la revue était ouverte au fantastique. Quelques écrivains au Québec ont conservé une certaine dent à ce sujet. Je vais peut-être lancer la question à Yves et Elisabeth sur cette ouverture ou non au fantastique dans les pages de Solaris. C'est un réchauffement, Elisabeth. Après ça, on passera aux vraies polémiques.
Yves, tu veux répondre à ça?
Oui, mais je pense qu'on a fais de la broue. Il y a toujours eu une ouverture au fantastique. Je dirais peut-être qu'en tant que directeur littéraire, d'avoir des textes fantastiques quand ils sont ennuyeux, c'est parce qu'ils sont dépourvus d'originalité. C'est un des problèmes du fantastique. J'ai reçu des textes, j'en ai reçu un en particulier, je disais, on croirait que ça a été écrit il y a un siècle. Et là, vraiment, non, je ne peux pas. L'auteur expliquait que c'était dans sa série « Contes légers et contes modernes », mais ça aurait pu être écrit à la fin du 19e siècle. Alors, j'avais dit non, désolé, c'est... non. Et c'est un peu le problème que les textes de fantastique risquent d'avoir un parfum vieillot. Alors, pour ça, mais ils étaient en minorité aussi. Durant ma période, les textes de fantastique représentaient un petit pourcentage, je pense, de fantastique classique. Là, c'était un petit pourcentage de ce que je recevais.
En fait, ça va et ça vient, les proportions. Il y a eu toute une période où il y avait beaucoup plus de fantastique que de science-fiction qui nous parvenait comme texte. Puis là, en ce moment, la science-fiction est en train de revenir. Bon. Mais on a toujours été ouvert aux deux, et même à la fantasy, alors qu'à un moment donné, la fantasy, c'était va des rétro Satanas en France. On ne pouvait pas aimer la science-fiction et la fantasy. C'était pas possible. C'était l'un ou l'autre. Vous êtes avec nous ou contre nous. Non, nous, ça n'a jamais été ce genre de truc-là. On reçoit très peu de textes de fantasy. En fait, c'est plus souvent du fantastique moderne, comme on dit. Ou bien de ces textes qui sont à la frontière des genres, de tous les genres, ce qui est également extrêmement intéressant. Donc, il y a toujours eu une grande ouverture.
La question donc que j'avais gardée pour Elisabeth, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était de savoir comment est-ce qu'un fanzine, puisque à ses débuts, Requiem était essentiellement un fanzine qui s'inscrivait dans la galaxie, la constellation des fanzines nord-américains, beaucoup en anglais, quelques-uns en français à l'époque. Comment est-ce qu'un fanzine devient une revue? Et maintenant, une revue très établie. Elisabeth a été aux premières loges de cette transformation. Et je lui pose la question et bon, Yves et Sylvie pourront aussi intervenir.
Je crois que d'une part, c'est parce que ces créateurs vieillissent, qu'ils deviennent de plus en plus professionnels eux-mêmes, que ce soit comme éditeur, comme directeur littéraire ou directrice littéraire ou comme écrivaine et écrivain, écriveron. Tiens, écriveron, c'est pas mal non plus. Et d'autre part, parce qu'au Canada, on peut avoir des subventions. Et nous dépendons encore jusqu'à un certain point beaucoup des subventions à la publication de revues qui existent dans le programme du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et lettres du Québec, quoique depuis quelques années, ils sont de plus en plus rats. De plus en plus gripsou, mais ça aide, c'est certain que ça aide. Ça a aidé à des moments bien plus que les abonnements. Mais il y avait une volonté de passer professionnel, c'est-à-dire de payer les auteurs. Et on y est enfin arrivé, on paye relativement bien comparé à ceux qui ne payent pas du tout. Si je me rappelais bien, on est rendu à 2 cents du mot pour les textes, pour les fictions, 2 ou 3 cents du mot. Ce qui est l'équivalent de ce que paye la plupart une bonne partie des revues anglophones. Et pour les articles, ou bien c'est l'inverse. C'est 4 ou 5 sous du mot pour les fictions et 2-3 sous pour les textes de non-fiction. Enfin, en tout cas, on paye.
Oui.
On paye.
Oui. Il me semble que c'était quand même très respectable.
Ouais. Oui, c'est très respectable. Yves connaît bien les tarifs anglophones et effectivement, c'est très respectable. Donc, il y avait cette volonté-là, puisque le professionnalisme est défini par les institutions gouvernementales comme le fait qu'on est payé. On avait intérêt à payer. Et nous avons donc décidé que dès que nous le pourrions, nous paierions et nous payons. Voilà.
Norbert Spener a conservé la direction de la revue pendant presque 10 ans, de la fondation de Requiem aux premières années de Solaris. Et après, la revue a eu plusieurs directeurs, dont Luc Pomerleau, Hugues Morin. Mais celui qui a dirigé la revue le plus longtemps, c'est Joël Champetier, plus de 20 ans. Essentiellement. Et depuis sa disparition en 2015, donc, la revue a créé le prix Joël Champetier en sa mémoire. Je voulais aussi donc demander s'il est peut-être possible maintenant de commencer à faire un bilan de sa direction de la revue sur 20 ans, presque la moitié de l'existence de la revue, et même, enfin, presque 22 sur 44 ans, pratiquement la moitié. Est-ce que quelqu'un veut songer, se rappeler un peu les contributions de Joël à la revue?
En tant que directeur littéraire, il a eu une importance vraiment essentielle parce que c'était quelqu'un qui était un excellent directeur littéraire. Même sur la fin, alors qu'il était à l'hôpital, il était encore en train de faire de la direction littéraire. Peut-être qu'il y en a parmi vous dans la salle, on ne sait jamais, qui ont eu des relations d'écriture avec lui. Il était vraiment très précis, très, très patient, ce qui est une excellente qualité pour la direction littéraire. Et de ce point de vue-là, il a eu une importance essentielle. Mais je voudrais quand même signaler qu'il n'était pas tout seul. Aucun des directeurs littéraires...
J'ai bien parlé de la direction.
Oui, la direction littéraire, c'est ça. C'est que, est-ce que tu as signalé que nous sommes plusieurs?
Ce fut mentionné allusivement.
Nous sommes trois ou quatre. Yves a été un de ces trois ou quatre pendant un moment. Moi, j'en suis toujours. On a Pascal Rau maintenant, qui est à cheval un peu sur la direction et la direction littéraire, enfin sur la rédaction et la direction littéraire avec Jean Petitgrou. On avait Daniel Cernine qui s'est beaucoup retiré aussi. Mais nous sommes plusieurs, c'est-à-dire que nous nous consultons. Quand Joël avait un problème, il disait, écoute, ce texte-là, je ne sais pas trop quoi faire avec, qu'est-ce que vous en pensez? Et on en pensait, et on se disait ce qu'on en pensait. Donc, si vous voulez, ce n'est pas de la direction littéraire par comité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est une direction littéraire collégiale jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que nous sommes des collègues, nous sommes des écrivains, tous écrivaines et écrivains, et donc nous nous sentons en position... en situation de pouvoir évaluer les textes ensemble. Et ça a très bien marché, ça marche pour le prix Solaris, nous sommes toujours atrocement d'accord, et pour le prix Champetier aussi. Donc, voilà.
Sylvie, Yves?
Je passe.
Oui, je crois que c'est... je veux dire, en tant que coordonnateur de la revue, Joël a fait un travail extrêmement important. On pouvait se fier sur lui, il a... Des fois, c'est que ça paraît pas. Ouais. La personne est là, c'est un pilier. On passe pas notre temps à contempler les piliers de soutènement du bâtiment dans lequel on vit, mais sans eux, il n'y a rien qui tiendrait. Et je crois que la contribution de Joël pour ça a été absolument fondamentale pendant 2 décennies. Mm. Et enfin, c'est pas la principale raison pour laquelle il me manque, mais on se ressent de son départ.
Oui, c'était un travail qui a peut-être grugé sur son temps d'écriture, mais il tenait, c'est lui qui assurait la régularité de la revue, qui coordonnait les contributions, faisait la direction littéraire en plus.
Il prêtait sa maison pour qu'on puisse aller faire la prise de données. J'allais taper la revue avec aussi Luc et Daniel. On allait taper la revue chez lui dans un faubourg de Montréal pendant deux, trois jours.
Et donc, une des réponses, effectivement, à la question peut-être de la longévité de Solaris, c'est en partie l'apport de Joël Champetier sur 2 décennies.
Donc, et des autres bénévoles, parce que nous étions...
Oui.
Bon, c'est ça. Joël a été essentiel.
D'ailleurs, la revue, fondée et tenue par des trentenaires dans les années 70 et 80, est maintenant gérée par des sexagénaires, quinquagénaires, quadragénaires. L'équipe a-t-elle besoin d'être rajeunie?
Non!
Y a-t-il des trentenaires assez fous pour se joindre à ce groupe?
Je remarque plutôt, moi, que les trentenaires, on va dire ceux qui ont entre 30 et 40 ans, parce qu'il n'y a plus personne qui fait vraiment des fanzines, genre 18 ans, ces trentenaires-là sont plutôt impliqués dans l'édition. Et c'est les gens des Cibrumes. Ils commencent déjà à avoir les dents longues.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont.
Oui, mais
quand ils avaient 30 ans, ils l'ont lancé. Maintenant,
le problème, je crois, de l'écologie science-fiction, de l'écologie des genres au Québec, c'est qu'il n'y a plus de fanzines. Il y en a plus vraiment. Il y a des blogs qui ne rejouent pas du tout le même rôle. Et donc, si vous voulez, dans une écologie bien comprise, littéraire, vous avez les fanzines où on fait ses débuts, puis des fanzines un petit peu plus huppées, où on passe après. C'est-à-dire qu'on a des séries de directions littéraires, de registres, de niveaux différents. Et après, on est, ayant appris sur le tas, on finit par passer aux revues dites professionnelles. Or, là, on a pu cette gradation qui était possible grâce aux fanzines. Alors ça, c'est un peu embêtant, je trouve.
On est dans un autre monde aussi que ce qui prévalait à la création de Requiem Solaris. Il y a eu quand même un renouvellement. C'est pas comme si tout le monde avait vieilli en bloc non plus à Solaris. Là. Il y a eu quand même... On peut nommer des gens de différentes décennies. Pascal a quel âge?
Pascal, je pense qu'elle a passé 40.
Oh, oui, 42.
Mais à peine, non. Mais elle est très jeune de cœur.
Il était là avant.
Oui, c'est ça.
C'était le quadragénaire que je mentionnais.
Donc, peut-être qu'il y a des trentenaires qui s'en viennent. Ce ne sera pas moi, parce que j'ai déjà passé l'âge. Mais il y a peut-être. Mais pour répondre à la question, encore une fois... du passage de fanzine à revue, je pense que ce qui est resté aussi, c'est que la revue a toujours été animée dans l'esprit d'un fanzine, mais avec le professionnalisme d'une revue. C'est une équipe c'est très tricotée serrée, pour parler en québécois aussi, vous voyez un petit peu aussi avec les conversations qui ont lieu, c'est les gens qui se rencontrent de façon presque artisanale. Maintenant, ça a été déplacé dans des bureaux officiels, mais il y a quand même un esprit convivial et collégial aussi qui est resté.
La revue a failli disparaître en 2000, faute de subventions, mais elle a été sauvée par les éditions à lire. Et puis après ça, il y a eu un changement de responsabilité. Mais néanmoins, à lire et Solaris partagent toujours un propriétaire en commun. Comment se vit cette relation? Est-ce que cela représente un risque de centraliser en un seul endroit certains des principaux atouts de la science-fiction québécoise?
C'est déjà pas mal centralisé dans la mesure où on n'a vraiment que deux éditeurs professionnels de genre qui se consacrent au genre, si je me rappelle bien. On a donc les éditions Les Cibrumes et à lire. Il se publie beaucoup de genre aussi à l'extérieur. Maintenant, ça a embarqué. Les gens sont partis dans la foulée, en particulier pour la littérature pour jeunes. Mais on est déjà pas mal concentré, effectivement. Jean Petitgroux signe souvent des éditoriaux dans la revue. Il a acheté Solaris pour $1 et puis il nous a laissé courir avec. Je dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de... La relation se vit très bien. Et il n'est pas tout le temps les mains fourrées dans la revue.
Il n'a pas le temps.
Non, il n'a pas le temps d'abord, mais dans la mesure aussi où nous nous connaissons tous depuis, encore une fois, la fin des années 70. C'est une famille avec tous les avantages et tous les inconvénients éventuels de la famille, mais d'un point de vue, je dirais, professionnel, ça se passe bien.
Alors, la dernière question, il reste 10 minutes. Je vais peut-être, selon la longueur de vos réponses, donner un peu de temps aux personnes dans la salle pour poser des questions. Mais donc, il reste 10 minutes, et alors je vais vous demander, selon vous, de vous mettre dans les chaussures de lecteurs européens comme ceux que nous avons dans la salle et de leur dire pourquoi ils devraient lire Solaris.
Contenu 100% francophone au niveau des fictions et non pas 75% anglophone traduit et 25% francophone. Je pense que si vous vous intéressez...
Et même quand c'est traduit, les auteurs sont encore vivants.
Oui.
Petite note.
Oui. Donc, si vous vous intéressez à la littérature SF, Fantastic Fantasy, francophone...
Contemporaine.
C'est un lieu, je ne dirais pas incontournable, parce qu'incontournable, ça veut juste dire « j'aime beaucoup, je voudrais que vous aimiez aussi ». Alors, je vais dire incontournable si vous comprenez que ça veut dire ça.
Oui, ben c'est ça, des termes contemporains, des formes contemporaines aussi. Puis en même temps, de la bonne vieille science-fiction, c'est comme un peu la combinaison des deux, là. Le respect des genres, puis en même temps des fictions, peut-être un petit peu plus à la limite aussi ces dernières années, du côté fantastique aussi, de l'esprit fantastique. Alors oui, d'excellents textes, vraiment de bonnes lectures, et une façon aussi, de découvrir aussi ce qui se fait, c'est comme une vitrine aussi, mais pas une vitrine dans le sens où on regarde et on reste à distance, on est dans la vitrine.
Je dirais par curiosité, ce qui me paraît très essentiel pour les gens qui aiment au moins la science-fiction, mais le reste des gens aussi. Et je voudrais signaler aussi qu'on a des articles de non-fiction qui sont très intéressants aussi. Mais c'est ça, je dirais par curiosité, soyez curieux. C'est ce qui nous sauve comme être humain, je pense. Mmh.
Je dirais effectivement que la grande spécificité de Solaris, c'est d'avoir aussi... d'être accessible en Europe et d'avoir un grand nombre de, justement, d'auteurs francophones canadiens que vous ne lirez pas beaucoup en France, à deux ou trois exceptions près. Donc, si vous voulez découvrir à quoi ressemble la science-fiction canadienne francophone, c'est Solaris. Et, comme on l'a mentionné plus tôt, le volet des critiques couvre également la production canadienne francophone d'une façon qu'on verra également très peu en France. Donc, pour toutes ces raisons, vous pourrez descendre dans la librairie tout à l'heure et peut-être feuilleter un numéro ou deux. Il reste quelques minutes et donc je vais prendre des questions dans la salle. Je vois Jean-Pierre. Alors, on va commencer avec Jean-Pierre.
Est-il question de modifier la périodicité de Solaris? Par exemple, 6 numéros par an?
Non.
La revue a tenu cette régularité pendant quelques années, mais ça fait longtemps qu'elle est passée.
Mais 4 numéros par an, mais autant de pages que quand il y en avait 6. Alors c'est juste un peu moins fréquent, mais un peu plus gros.
Je rappelle qu'il y a la version en ligne, où il y a des articles qui ne sont pas, où il y a des éléments qui ne sont pas nécessairement dans la revue.
Et qui est, elle, gratuite.
Et qui est gratuite.
Y aurait-il d'autres questions au sujet de la revue Solaris? Alors,
de toute façon, on va être là pour le restant du congrès. Vous viendrez nous ennuyer.
J'ai fait la pub pour la revue à la librairie. Est-ce qu'il y avait une question? Une des questions que j'avais sautées, c'était de savoir, et on peut conclure là-dessus, quelle était votre première publication dans Solaris? J'avais sauté cette petite question de mémoire pour les auteurs ici présents. Ça vous donne le temps
de mémoire. C'était en 88, mais c'était quoi ma nouvelle qui avait gagné le prix Solaris, Elisabeth?
Sans titre,
hein, c'est ça. C'est bien celle-là.
Une nouvelle qui s'appelait Sans titre. Alors là, c'était une fois où on s'est vraiment beaucoup débattu au truc. Bon, eh bien moi, vous ne le croirez pas, mais j'ai commencé par des nouvelles brèves. Et quand je dis brève, c'est une ligne.
Quelle était ta première nouvelle? T'en souviens-tu?
Je ne sais plus laquelle c'était. C'était un truc à l'envers. Elle était née... Voyons. Genre, elle était née le 31 octobre 2050 et elle est morte... Non, je ne me rappelle même plus comment ça... Enfin, c'était rétrograde. Le personnage était né avant d'être mort ou quelque chose... Ben non, ben oui. Non, après être mort.
Je ne me rappelle pas, c'est dans les années 90. On va laisser ça comme ça parce que je ne pense pas que c'était Pharmacopée. Il me semble que c'était avant parce que. Mais je ne sais pas.
On est tous trop vieux, hein?
Oui.
C'est terrible.
Ou c'était peut-être une nouvelle courte aussi du concours d'écriture sur place de Boréal. C'est possible.
Bon, allez voir. Si j'avais. si j'avais voulu, j'aurais pu sortir de mes bases de données vos premières nouvelles. Et on pourrait même le faire en direct parce que... Non, parce que Solaris a les archives. Quant à ma première nouvelle, elle est parue en 87 dans Solaris. C'était Les proscrits de GNA, une nouvelle qui était deuxième au prix Solaris de l'époque. Donc voilà, rendez-vous à la remise du prix Joël Champetier, qui est apparemment bien marqué dans le programme. Merci d'être là. Je vais même donner 5 minutes, à moins qu'il y ait une question de dernière minute. Il y a des gens qui doivent aller maintenant dédicacer à la librairie, justement. Alors, merci beaucoup.